Bonjour, et je vais vous parler aujourd'hui de la paracha de Bamidbar, ou comme ça serait peut-être plus correct de dire Bamidbar, parce que c'est comme ça que ça apparaît dans le verset, et plus particulièrement dans un passage qui apparaît à la toute fin de la paracha, un passage qui peut apparaître inaperçu, où il est question de la manière de recouvrir et ranger les ustensiles du Mishkan, du tabernacle mobile que les enfants d'Israël avaient dans le désert, afin de pouvoir se préparer pour les déplacements d'un endroit à l'autre. Ce démontage de ustensiles et même de la structure du Mishkan se faisait en plusieurs parties. Et à la fin de notre paracha, on parle peut-être de la partie la plus cruciale, qui sont les instruments, les ustensiles qui sont considérés comme les plus sacrés, Kodesh HaKodashim. Il s'agit plus particulièrement de l'autel en or, et de la menorah, le chandelier, et de la table où était mis un pain spécial, ainsi que les ustensiles qui les accompagnaient. La fonction de transporter ces ustensiles-là incombait à une partie déterminée de la tribu de Lévi, qui s'appelait les enfants de Kehat, ou autrement les Kehatites. Les enfants de Kehat, ils avaient donc, contrairement aux autres Lévites, une responsabilité quelque part dangereuse, parce qu'ils devaient transporter des ustensiles qui étaient particulièrement sacrés, et donc sur lesquels il y avait particulièrement des précautions. Ce que la paracha nous raconte, c'est que les kohanim, donc les prêtres, ceux qui étaient responsables de se servir, lorsque le Mishkan était fonctionnel, de se servir de ces ustensiles-là, c'est eux qui devraient les recouvrir des tissus et des cuirs d'une façon assez détaillée dans la fin de notre paracha. Et seulement une fois que ça avait été couvert et rangé, les enfants de Kehat, ils pouvaient s'approcher pour porter ces objets-là. Et il y a donc un verset qui indique ça d'une façon assez précise et qui dit la chose suivante: Vechila Aaron uvanav lechasot et hakodesh ve'et kol kelei hakodesh binsoa amachane ve'acharei chen yavou bnei Kehat laset velo igu el hakodesh vametu. Ele Massa Bnei Kehat Be'ohel Moed. Je traduis: Aaron et ses enfants termineront de couvrir les ustensiles sacrés et lorsqu'il est question de partir du camp. Et seulement après, les enfants de Kehat, ils pourront s'approcher pour porter et de cette façon, ils ne vont pas toucher aux choses saintes. Et de cette façon, ils ne vont pas mourir. C'est assez curieux qu'on dise qu'on impose une telle gravité sur le fait de toucher ces ustensiles-là. C'est seulement les prêtres qui avaient le droit de le faire, mais les Lévim, ceux, et plus particulièrement les enfants de Kehat qui étaient censés les porter, n'avaient pas le droit de les toucher directement. Et selon l'interprétation d'un des grands commentateurs traditionnels de la Torah, les Ibn Ezra, il y avait en fait deux interdits pour les Lévim, Bnei Kehat. L'un, c'était de les toucher, comme il est explicite dans le verset, et l'autre, c'était même de regarder ces ustensiles découverts. Et la gravité était telle que s'ils parvenaient à faire l'une de ces deux choses, ils seraient passibles de peine, pas de peine capitale appliquée, mais en tout cas passibles de mort. Bon. Il y a ensuite, dans le verset de la fin de la paracha, une recommandation pratique faite aux kohanim, aux prêtres, en disant, vous, je dirais directement en français, vous allez éviter de tuer la tribu et plus particulièrement la tribu de Lévi, plus particulièrement la famille de Kehat. Et comment vous allez faire ça? Quand ils vont s'approcher, vous allez vous-même les mettre dans les couvertures, les ustensiles, et de cette façon-là, ils ne les verront pas quand ils sont découverts. C'est de là que l'Ibn Ezra apprend le deuxième interdit, c'est lui de regarder. Bon. En tout cas, c'est, cette explication du Ibn Ezra, elle n'est pas consensuelle. Il y a notamment un autre commentateur assez classique de la Torah qui s'appelle Sforno, qui voit dans ce passage-là une autre problématique. Il n'y a pas besoin que les Lévi'im, Bnei Kehat, touchent ou même qu'ils ne voient les ustensiles sacrés pour qu'il y ait cette idée qu'ils sont susceptibles de mourir. Pour lui, je les cite, lorsque le verset dit que vous ne devez pas les laisser mourir, il s'agit de dire que vous ne devez pas les laisser s'approcher chacun selon son initiative. Parce que de cette façon, ils vont se battre, et en se battant, il s'agit de ce qu'il appelle kalut roche, chose qu'on pourrait traduire par un esprit léger, et qui vont se battre les uns contre les autres, et en cela, ils ont un esprit léger, et ça c'est déjà une profanation des saintetés. Les deux explications, donc celle d'Ibn Ezra plus technique, il y a un problème de voir, il y a un problème de toucher, et celle de Sforno, elle est un peu moins technique, elle dit le problème c'est vraiment que eux, ils pensent que celui qui arrive en premier, c'est celui qui se sert au plus correctement, qui va servir, qui va faire ce service-là de porter les ustensiles. Donc le problème n'est pas seulement les ustensiles découverts, d'après les Sforno, le problème il est même dans l'initiative même spontanée qu'on puisse laisser aux enfants de Kehat. Il faut absolument, d'après les Sforno, empêcher cette initiative spontanée. C'est vous, donc les prêtres, les Kohanim, qui devez leur donner à chacun sa tâche. Et de cette façon, ils vont attendre que l'ordre leur soit donné, et seulement ensuite, ils vont procéder à prendre un ustensile, une personne, ou une autre personne prendre un autre ustensile, et une autre personne éventuellement ne rien prendre, et ainsi de suite. Et ce que je voulais vous proposer, c'est qu'il y a deux façons assez différentes de comprendre ce qui se joue ici. Selon le Ibn Ezra, comme je vous ai dit, le problème c'est de s'approcher trop de la sainteté, en touchant, en regardant alors que ce n'est pas approprié, ceux qui ont une idée qui mérite de l'attention en soi. Tandis que d'après le Sforno, même si on ne s'approche pas trop, mais qu'on ne s'approche pas de la bonne manière, c'est-à-dire on s'approche trop spontanément, ça ne va pas. Je pense que les deux idées, elles méritent d'être discutées. Je vais me concentrer notamment sur la deuxième. Quel serait le problème de laisser les Bnei Kehat faire leur travail sans, de porter les ustensiles sacrés, sans les toucher, sans les regarder, mais de façon spontanée? Quel est le problème de leur laisser cette spontanéité? Le Sforno ne répond pas à cette question. En revanche, il nous invite à aller regarder un passage qui apparaît dans la Mishnah, cité dans le Talmud de Babylone, traité Yoma, page 22b. Dans cette Mishnah, il est question d'une tâche qu'il y avait, qui incombait aux prêtres dans le temple, qui était de vider l'autel des cendres des sacrifices du jour précédent, ce qu'on appelle Trumat HaDeshen. Dans le temple, les familles des prêtres étaient divisées en plusieurs tours, et quand il y avait une famille étendue, dont le tour était cette semaine, ce n'étaient pas toutes les tâches qui étaient officiellement partagée entre les différents prêtres. Et ce qui s'est passé à cette époque, raconte la Mishnah dans Yoma, c'est que les prêtres, ils se battaient les uns contre les autres, qui allaient monter le plus vite à l'autel pour pouvoir prendre ces restes de cendres et les enlever, ce qui était un des travaux sacrés. Et tellement ils se battaient qu'un jour il y a eu, raconte la Mishnah encore, il y a eu un accident. Il y avait une espèce de rampe pour monter à l'autel. Et quand ils se battaient pour voir qui allait arriver en premier, il y a un qui est tombé et qui a cassé son pied. Ça, c'est l'histoire que le Sforno nous met en lien avec la problématique de laisser les enfants de Kehat spontanément s'occuper des porter les charges des ustensiles sacrés. Les histoires, en principe, elles ont un point commun évident. Il y a des gens qui se battent, dans un cas c'est les Lévim, dans l'autre cas c'est les Kohanim, mais bon, il y a des gens qui se battent pour réaliser un travail sacré. Chacun, il veut être le premier, et quand il y a cette dynamique-là de chacun, le premier qui arrive, le premier servi, ou plutôt le premier à servir, nous avons des accidents, nous avons des problèmes. Sauf que la différence, c'est justement que le problème dans la Mishnah, c'est un problème de danger. Les gens se cassent les pieds, ou peut-être plus grave. Tandis que dans le commentaire du Sforno sur notre paracha, il semblerait qu'il y a un problème plus essentiel. Que c'est un problème en soi que de laisser les gens avoir une spontanéité dans le service sacré. Je voudrais vous proposer peut-être une façon de concilier ces deux choses. Il me semble que l'idée dont il est question, elle est au fond partagée dans les deux sources. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de spontanéité et d'amour qui est peut-être nécessaire ou inaugurale de tout travail divin, de tout service divin. Cette dimension-là, on la voit surgir de façon spontanée chez les Lévim qui se battent pour voir qui va prendre la charge, et on la voit chez les Kohanim dans la Mishnah qui se battent pour voir qui est-ce qui va prendre les cendres, les restes des cendres. Cette dimension-là, il me semble que la Torah la voit d'une façon curieusement négative. Ceci est énoncé sous différentes façons dans différentes sources, mais pour vous en citer deux, il y a une évidente qui apparaît dans la Gemara dans Kiddushin, Gadol a metsuvé veosé, Miché eino metsuvé veosé. On considère supérieur celui qui accomplit quelque chose en ayant été préalablement commandé à se faire que quelqu'un qui le fait sans être commandé de le faire. Ça, c'est un principe halakhique qui vaut pour beaucoup de choses. Et le deuxième endroit où on peut voir ça, c'est à partir de plusieurs histoires, mais notamment l'histoire qui est mentionnée aussi rapidement dans notre parasha, qui est celle de Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, le premier Cohen, et qui ont spontanément offert des encens qui n'avaient pas été ordonnés et qui, en raison de ça, apparemment, ils sont morts. Donc c'est quelque chose qui est vu très négativement, ou en tout cas moins positivement que quand on accomplit quelque chose en ayant été ordonné. Ça, il me semble que c'est une perspective assez claire. Il y en a d'ailleurs, notamment Maïmonide, le Rambam, qui pense que tous les services divins dans le temple, ils n'étaient au fond qu'une concession à cet élan spontané de l'homme de vouloir servir Dieu, et que dans la Torah, ce qu'on dit, c'est « d'accord, si vous voulez, vous pouvez ». Vous avez même le commandement de le faire, mais vous allez le faire d'une façon très structurée et très cadrée. Vous n'allez pas offrir n'importe quel animal à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Tout ça, c'est très cadré et je pense que c'est l'objet tout entier du livre que nous venons de terminer, le livre de Lévitique, Vaïkra. En revanche, il me semble qu'il y a une prise en compte de cet élan d'amour et des services que l'homme a vis-à-vis de Dieu, par la Torah, et qu'on tient compte du fait que peut-être autrement, ce n'est pas possible. Dans la Gemara qui commente la Mishnah que je vous ai citée, justement, quand ils ont vu qu'il y avait un danger, c'est-à-dire quand ils ont vu que ces élans d'amour divin et de vouloir faire un travail un service divin, ils étaient si forts que les gens pourraient même parvenir à des dangers, on a institué qu'à la place du principe de first arrived, first served, celui qui arrive en premier, c'est celui qui est servi en premier, ou en l'occurrence qui sert en premier Dieu, nous allons instaurer un système de ce qu'on appelle païs. Païs, c'est un mot qui est dérivé du grec, qui signifie la loto, la loterie. Et il y avait une façon très particulière de le faire, qui était que chacun, il levait son doigt, on comptait le nombre des doigts, et après, on faisait une espèce de tirage au sort pour décider qui allait avoir la mitzvah. Et une fois qu'on a fait ça, ce que la Gemara dit, c'est que les gens, ils ont arrêté de venir. Les Kohanim, ils ne voulaient plus se battre, en plus, c'est quelque chose qui se passe tard le soir. Les gens n'avaient plus envie de venir parce qu'ils se disaient, bon, peut-être que je ne vais pas être tiré au sort, donc je ne vais pas venir. Donc, ils ont instauré une nouvelle règle à ce tirage au sort, c'est que non seulement la personne allait recevoir cet honneur-là de retirer les cendres, mais aussi d'autres honneurs. Et donc, les gens sont venus à nouveau. Il y a donc, ce que j'essaie de vous montrer, une négociation avec ce côté spontané. Le côté spontané, il n'est pas vu positivement, mais il est plutôt vu comme, si je puis me permettre, un mal nécessaire. Les gens, ils ont des élans, et ces élans, on doit leur faire une place. En revanche, ce n'est pas sur ça que la chose se structure. C'est peut-être à partir de ça que les personnes elles peuvent s'inscrire dans une forme de service divin, mais le service divin tel le conçoit la Torah, ce n'est pas un service de la pure spontanéité, mais un service où la spontanéité, elle est d'une certaine façon subjuguée par des règles. Que ce soit les règles qui établissent qui va faire quoi, et donc de là on comprend le principe selon lequel il est mieux de faire quelque chose en ayant été préalablement ordonné que de le faire de façon spontanée, principe qui vaut pour presque tous les domaines de la loi juive, mais aussi on comprend que de son côté, l'homme, il doit consentir à cela. Il doit consentir au fait de mettre de côté ses élans spontanés afin de pouvoir s'inscrire dans quelque chose de collectif. Et je pense que cette chose collective, elle est représentée d'une façon très pertinente par l'idée du tirage au sort. Ce qui se passe dans le tirage au sort, au fond, c'est que quand on consentit d'y participer, on n'est plus un sujet, au fond. On n'est plus une personne. On est représenté, en l'occurrence, dans cette forme de tirage au sort par son doigt, qui va être un numéro, un chiffre dans un compte. Et d'ailleurs, vous avez pu peut-être remarquer que le livre de Bamidbar, qu'on commence cette semaine justement, il est plein de comptes. C'est une dimension dont on ne peut pas se passer. Dans la façon de la Torah de voir ce que c'est d'être un juif et d'être partie prenante dans le service divin spécifique au peuple juif, c'est une partie essentielle de ça que de consentir à certains égards d'être comme un chiffre. Je suis en partie dans tout. Il se trouve qu'il y a une obligation ou une mitzvah qui m'encombera, moi particulièrement, et à ce moment-là, je mettrai à l'œuvre mes instants de spontané, si vous voulez, pour réaliser cela de la meilleure façon. Donc il y a au préalable de pouvoir s'inscrire dans cette façon de service divin qui conçoit la Torah, un consentement nécessaire au fait de, à certains égards, de devenir non pas un sujet, mais un chiffre, une partie d'un tirage au sort. C'est peut-être quelque chose qui peut nous aider à comprendre, pour les semaines qui viennent aussi, tous ces comptes qui sont faits du peuple juif. Dans la Gemara, je terminerai avec ça, qui suit justement cette Mishnah dans le traité de Yoma, qui nous raconte l'histoire des Kohanim qui se sont cassés les pieds. Il est question justement de l'interdit qui existe de compter directement, je souligne le mot directement, les enfants d'Israël. C'est pourquoi, à chaque fois, ou presque à chaque fois, qu'il est question de compter les enfants d'Israël, il faut les faire d'une façon indirecte. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas qu'on a vu, compter le nombre des doigts et non pas le nombre des personnes. Ou, dans le cas de ce qu'on appelle le Machatzit HaShekel, le don annuel qui était donné par tout le monde pour l'entretien du tabernacle et puis du temple, les gens étaient aussi comptés selon le nombre de pièces qu'ils donnaient. Ce compte indirect, il est peut-être aussi quelque chose qui nous indique cette même direction. Que nous, on ne se réduit pas à des numéros, mais on consent, pour entrer dans un certain système, à être représenté par des numéros. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Good Shabbos.